Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de commencer votre après-midi avec nous. Fidèle au poste, c'est une demi-heure de culture et de pop culture, de cinéma, de bande dessinée, de série. Et juste avant de parler du film Mikado, nous commencerons par la musique du film Ryo ne répond plus. Mikado de Baya Kasmi révèle un film solaire qui cache pourtant une tension dramatique bien réelle. C'est l'histoire de Mikado et de Laetitia qui vivent avec leurs enfants sur les routes. Une panne de moteur les amène à s'installer le temps d'un été chez Vincent, un enseignant qui vit seul avec sa fille. La réalisatrice parvient à éviter le pathos en offrant une lecture sensible du quotidien d'une famille atypique, poussée par des traumatismes anciens et une volonté féroce de protéger ses enfants.
Depuis le début, en tout cas, ce qui guidait ma recherche, c'était l'envie de faire un film sur l'enfance et sur aussi ce que l'enfance a de, à la fois de fondatrice et de, pour la vie entière, et à la fois de très... Je partais de cette image qui, pour moi, est très forte et qu'on raconte assez peu de l'enfance comme l'enfance prisonnière, en fait. C'est-à-dire qu'enfant, de toute façon, on ne choisit rien. Nos enfants, nos parents veulent a priori notre bien. Mais ils veulent notre bien avec quoi ? Avec, en réparant leur propre enfance, en réparant leur propre souffrance. Et donc, souvent, ce bien, il est... Bah, il nous est imposé et il n'est pas toujours ce qui nous fait vraiment du bien. C'était une histoire sur la famille, dans ce que ça a de plus fort, de plus beau, et dans ce que ça a de plus toxique et étouffant. Et donc voilà, j'étais guidée par ce truc-là d'essayer de raconter une enfance comme ça, enfermée, sans la possibilité de... Et finalement... Cette enfance bien particulière de Nuages, elle est, voilà, elle a vraiment pas le choix, dans le sens où elle a pas le choix parce qu'elle vit isolée et elle vit d'une façon qui est très différente des autres. Mais je pense que tous les enfants vivent ça de toute manière. Tant qu'on n'a pas quitté le nid, tant qu'on n'a pas été en contact avec d'autres personnes, on est finalement en syndrome de Stockholm de ses propres parents.
Félix Moati, Vima Laponce et Ramzi Bedia se distinguent par la justesse de leur jeu et le film, tout en posant la question de la responsabilité parentale, ouvre également un espace de réflexion sur l'enfance et la résilience. Mikado se révèle comme une œuvre émouvante et subtile. Le film se part d'une esthétique à la fois solaire et mélancolique, portée par la performance remarquable de ses acteurs.
Ce qui m'a guidé pendant tout le film, c'était vraiment la puissance de l'amour. Voilà, la puissance de l'amour pour ses enfants et pour sa compagne. Sachant que quand on aime, on peut tout à fait mal aimer. Et je pense que c'est ce que fait Mikado, il aime mal, mais il aime puissamment.
À travers l'installation chez un enseignant, Baya Kasmi questionne avec brio la normalité et la parentalité. Une réalisation sobre et efficace qui laisse transparaître à la fois la douleur et l'espoir dans un quotidien suspendu.
Ce sont des personnages qui essayent d'échapper à quelque chose que nous vivons tous, c'est-à-dire qu'on a un chemin très comme des rails dans la vie. On doit aller à la crèche, à l'école, avoir travaillé. Et puis jusqu'à la mort, il y a une ligne de ce qu'on doit faire. La retraite, le ceci, le cela. Eux, ils essayent d'échapper à tout ça. Et on ne peut que les envier et que ressentir ce désir-là. Et en même temps, je crois qu'on ne peut pas faire sans les autres.
Un pas de côté remarquablement orchestré qui prouve que la réalisatrice s'est mariée justesse narrative et profondeur émotionnelle. Mikado de Baya Kasmi est actuellement disponible sur les écrans.
Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
À venir, une réflexion sur l'antisémitisme dans le cinéma américain, mais pour l'heure, laissez entrer le dragon, musique géniale de Lalo Schifrin. Nous vivons une période record d'actes antisémites dans le monde. Aux États-Unis, ces dernières années, plusieurs attaques meurtrières ont ciblé des communautés juives à Pittsburgh, Poway en Californie, Jersey City dans le New Jersey et Muncie à New York, en plus d'une série d'agressions à Brooklyn. Ce phénomène d'antisémitisme n'est pas nouveau aux États-Unis. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, malgré une présence culturelle et économique grandissante des Juifs américains, l'antisémitisme restait présent. Gerard Smith, leader de l'America First Party, fondée en 1943, attirait alors des milliers de partisans dans ses rassemblements. En réaction à ce climat, deux films majeurs dénonçant l'antisémitisme américain sont sortis en 1947. Le mur invisible d'Elia Kazan et Feu croisé d'Edouard Mitrick. Ces films, réalisés par des cinéastes non-juifs et produits par des studios non dirigés par des juifs, brisaient un tabou en abordant directement la question juive. Le mur invisible, basé sur le roman de Laura Hobson, racontait l'histoire d'un journaliste non-juif, joué par Gregory Peck, se faisant passer pour un juif afin d'enquêter sur l'antisémitisme. Feu croisé abordait quant à lui le meurtre antisémite d'un civil juif par des soldats américains.
Est-ce que vous vous êtes disputé avec Samuel ?
Pourquoi on se serait disputé ? Il avait des liqueurs et du whisky, il nous en a donné.
Vous ne l'aviez jamais rencontré avant ?
Non, je ne le connaissais pas avant le bar. C'était la première fois que je le voyais.
Vous en êtes sûr ?
Mais oui, tout à fait sûr. Tous ces temps-ci, j'en ai rencontré des tas comme lui.
C'est-à-dire ?
Oh, vous savez, des gars qui se sont planqués, qui ont fait la guerre chez eux, qui se sont arrangés et ont mené la bonne vie en civil, dans de beaux appartements, avec de jolies filles, vous voyez le genre.
Je ne suis pas du tout sûr de connaître ce genre-là.
Oh si, vous savez, des types qui s'appellent Schwab. Samuel. Il y en a même qui ont des noms de sauvages.
Ces deux films rencontrèrent une forte résistance, notamment de la censure américaine et même de certaines organisations juives, craignant que ces représentations ne renforcent l'antisémitisme. Les deux films furent nommés aux Oscars du meilleur film 1948. Le Mur invisible remporta finalement le prix. Selon une étude de l'époque, 75% des spectateurs du Mur invisible avaient une perception plus positive des Juifs. Aujourd'hui, dans une Amérique divisée politiquement, marquée par des formes anciennes et nouvelles d'antisémitisme, à droite comme à gauche, l'utilité de nouveaux films dénonçant clairement l'antisémitisme semble devenir une nécessité.
Shalom, shalom. Goodbye, goodbye. Au revoir. Arrivederci. T'ho incontrata, t'ho fermata qui a Tel Aviv. T'ho sognata, t'ho adorata qui a Tel Aviv. Ogni giorno t'ho baciata, mi dicevi sì. Tienimi forte a te così e non pensare a nulla se ti bacio, ma d'un tratto sei cambiata qui a Tel Aviv. Forse un altro ti ha stregata qui a Tel Aviv. M'hai mentito, m'hai tradito, m'hai spezzato il cuore e così finì il mio sogno a Tel Aviv. T'ho incontrata, t'ho fermata qui a Tel Aviv. T'ho sognata, t'ho adorata qui a Tel Aviv. Ogni giorno t'ho baciata, mi dicevi sì. Tienimi forte a te così e non pensare a nulla se ti bacio. Ma d'un tratto sei cambiata qui a Tel Aviv. Forse un altro ti ha stregata qui a Tel Aviv. M'hai mentito, m'hai tradito, m'hai spezzato il cuore e così finì il mio sogno a Tel Aviv. Tel Aviv, t'ho sognata, t'ho adorata qui a Tel Aviv. Ogni giorno t'ho baciata, mi dicevi sì. Tienimi forte a te così e non pensare a nulla se ti bacio. Ma d'un tratto sei cambiata qui a Tel Aviv. Forse un altro ti ha stregata qui a Tel Aviv. M'hai mentito, m'hai tradito, m'hai spezzato il cuore e così finì il mio sogno a Tel Aviv. E così finì il mio sogno a Tel Aviv.
Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïca.
When it's your turn to do an old-timey narration, there are a few things that all boys and girls should consider. Do you know how to properly use a mid-Atlantic accent? Have you ever tried Carter's Little Liver Pills? Do you know how to properly use the phrases gosh, golly, gee whiz, or and how? Have you ever watched Little Orphan Annie, taken a wooden nickel for something, drank Pepsi Cola, smoked a Winston cigarette, or tried rich chocolatey Ovaltine? Because it'll make you feel swell.
Le grand et le petit écran se sont emparés très tôt, dès l'après-guerre, de la figure de Freud pour en faire un personnage de fiction. On ne compte pas moins de 50 apparitions dans des comédies romantiques, des thrillers, des reconstitutions historiques. Même la science-fiction s'en est saisie. Dans un épisode de la série Star Trek, un hologramme de Freud interroge les rêves d'un androïde. Ce n'est qu'après la mort de Freud en 1939, puis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que le cinéma s'est véritablement tourné vers la figure du psychanalyste. À ce moment-là, Freud représentait le monde d'hier, celui de la Vienne cosmopolite qui ne renaîtrait jamais de ses cendres. Il était aussi un éminent représentant du judaïsme européen, en grande partie décimé dans les camps de la mort. Enfin, la science qu'il avait fondée passionnait la nouvelle génération d'acteurs, principalement américains, de Marlon Brando à James Dean, qui n'envisageaient plus leur métier sans passer par le divan. Freud apparaissait à la fois lointain et familier, le cinéma devait fixer son image. Une telle chose aurait été impossible de son vivant. Freud détestait le cinéma. Lorsque le célèbre producteur américain Samuel Goldwyn se rendit à Vienne pour lui proposer d'écrire une histoire d'amour, Freud ne prit même pas la peine de le recevoir. Même le grand réalisateur allemand George William Pabst, auteur en 1926 des Mystères de l'âme, premier film à introduire la psychanalyse à l'écran, ne parvint même pas à attirer son attention. Freud ne se déplaça même pas pour voir le film. Après sa mort, tout devenait possible. En 1962, Freud fait une entrée en majesté au cinéma dans Freud, Passion secrète, d'après un scénario de Jean-Paul Sartre, mis en scène par John Huston, le réalisateur du Faucon Maltais et du Trésor de la Sierra Madre. Montgomery Clift, autre grand nom de l'Actor Studio, incarne Freud comme un homme à la sérénité impériale, maître de ses émotions intérieures. Le film devient presque un autoportrait de Clift lui-même, homosexuel refoulé, dépendant des médicaments, dépressif chronique. Et derrière le psychanalyste, on reconnaît aussi la figure de John Huston, obsédé par des personnages poursuivant des idéaux inaccessibles, ne vivant leur réussite que dans le rêve, sans jamais pouvoir les atteindre. Freud devint un homme dominé par ses propres obsessions, et son obsession est la découverte de cette nouvelle science, la psychanalyse.
L'univers le sort. Que ces idées étrangères émanent de l'esprit du sujet, comme dans l'autosuggestion à la suite d'une expérience traumatisante, ou de l'hétérosuggestion, comme dans l'hypnose, ou bien du diable lui-même, ainsi que le penser n'opère, c'est relativement sans importance. L'important est le fait que ces idées demeurent inconnues du malade, c'est-à-dire qu'il n'en a pas conscience. On discute beaucoup en ce moment au sujet de l'inconscient, jusqu'ici on en parlait comme d'une abstraction philosophique, mais le professeur Charcot nous a permis de le connaître et de le toucher du doigt. Il nous faut maintenant accepter le fait qu'il peut exister une pensée qui n'est pas au niveau du conscient. Ces pensées inconscientes sont-elles produites par un cerveau troublé ou sont-elles rattachées au traumatisme par un enchaînement logique dont les liens sont encore à découvrir ?
Merci, docteur Freud. Je pense que j'exprime le sentiment de mes collègues en vous assurant que nous apprécions vivement votre rapport. Mais mon opinion personnelle est qu'il n'y a rien dans ce que nous avons entendu qui soit particulièrement nouveau pour nous, médecins viennois.
Je voudrais dire quelques mots. Je regrette de contredire notre estimé président, car j'ai trouvé dans ce que nous venons d'entendre quelques idées qui sont neuves et quelques idées qui sont justes. Mais les idées qui sont justes ne sont pas neuves, et celles qui sont neuves ne sont pas justes. Il est vrai que certains malades présentent des troubles nerveux semblables à ceux qui ont été présentés, mais cela n'est guère nouveau. Aucun de nous n'ignore que des émotions violentes peuvent affecter le système nerveux central. Mais pourquoi ces allusions à des pouvoirs diaboliques et à l'inconscient? Sommes-nous théologiens ou médecins? Et de plus, lorsque notre jeune collègue se croit obligé d'instruire et d'éclairer ses amis à propos de l'hypnotisme, il oublie dans son enthousiasme qu'il ne nous apprend rien de nouveau. Malheureusement, il n'est pas vrai que l'hypnotisme soit une méthode scientifique. Personnellement, je considère l'hypnotiseur et son sujet comme une paire d'illuminés, mais dont le plus sérieusement atteint n'est certainement pas l'hypnotisé. Nous, médecins viennois, nous nous contenterons de laisser la spéculation métaphysique aux Parisiens et d'écouter, humbles et patients, les leçons de la physiologie expérimentale.
Quinze ans plus tard, en 1976, ce n'est plus l'inventeur de la psychanalyse qui intéresse le cinéma, mais un personnage entré dans la pop culture. Dans Sherlock Holmes attaque l'Orient Express, le docteur Watson convainc le détective de se rendre à Vienne pour une cure de désintoxication chez le docteur Freud. On parle ici de thérapie, mais il s'agit surtout d'un mariage des cerveaux. Les deux personnages ont trop en commun. Freud explore les esprits criminels, Holmes suit les indices qui mènent à eux. Tous deux partagent une obsession du détail. Surtout, il semble que la compréhension de l'homme Freud ne passe plus seulement par la biographie, mais par sa confrontation à des figures fictives, comme si sa stature était devenue trop imposante pour être abordée de manière directe. Dans A Dangerous Method de David Cronenberg, sorti en 2011, Freud fait sa dernière apparition notable au cinéma. Il y forme un trio avec le psychanalyste Carl Gustav Jung et une femme, Sabrina Sprilrein. Ancienne patiente de Jung, elle devient collègue et disciple de Freud. Mais c'est elle, Sabrina, le vrai centre du film. Une femme juive vivant dans l'une des périodes les plus tourmentées de l'histoire européenne. Nous sommes juifs, mademoiselle Sprilrein, et nous serons toujours considérés comme tels, lui explique Freud, dans une scène où il est pour la première fois défini à l'écran aussi clairement et brutalement par son judaïsme. Ce n'est plus un personnage de fiction, mais un homme façonné par sa propre histoire et par une époque qui s'apprête à l'emporter. C'est sans doute l'image que le fondateur de la psychanalyse aurait eu le plus de plaisir à contempler sur grand écran.
Oh, vous n'avez pas la moindre idée de la réelle puissance et de la profondeur de l'opposition envers notre travail. Mais il y a le domaine médical au grand complet qui braille d'envoyer Freud à l'auto-da-fé. Et ce n'est rien si on compare à ce qui arrivera lorsque nos idées commenceront à s'infiltrer jusqu'au public sous leur forme la plus embrouillée. Les dénégations, la frénésie, la rage incohérente.
Oui, mais ne serait-ce pas causé par votre insistance pour une interprétation exclusivement sexuelle de vos observations cliniques ?
Je ne m'applique qu'à pointer du doigt ce que l'expérience m'indique comme étant la vérité. Et je peux vous assurer que dans 100 ans, notre travail sera encore rejeté. Je vous rappelle que Colomb ne savait pas quel pays il venait de découvrir. Et tout comme lui, j'évolue dans le noir. Tout ce que je sais, c'est que j'ai posé le pied sur le rivage et que le pays existe.
Vous me faites plutôt penser à Galilée. Et vos opposants évoquent ceux qui l'ont réprouvé en refusant de même jeter un coup d'œil à son télescope.
De toute manière, j'ai simplement ouvert une porte. Et c'est aux jeunes hommes comme vous de la franchir.
Je suis sûr que vous aurez encore de nombreuses portes à nous ouvrir.
Et puis, il y a une autre difficulté qui, bien sûr, augmente les munitions de nos ennemis. Et c'est que nous tous ici à Vienne, dans notre cercle psychanalytique, sommes juifs.
Je ne vois pas la différence que ça peut faire.
Voilà, si je puis me permettre, une remarque admirablement protestante.
J'ai rêvé d'un cheval se faisant hisser par des câbles à une hauteur importante. Tout à coup, un câble se rompt et le cheval est projeté au sol. Mais il n'est pas blessé. Il se relève d'un bond et part au galop, avec comme seule entrave un lourd billot qu'il est forcé de traîner par terre. C'est alors qu'un cavalier, sur un petit cheval, fait irruption devant lui, le forçant ainsi à ralentir. Et une voiture apparaît devant le petit cheval, ce qui fait que notre cheval est obligé de ralentir encore davantage.
Je pense que le cheval vous représente.
Oui.
Votre ambition a, d'une manière ou d'une autre, été frustrée.
Le cavalier qui me fait ralentir.
Oui.
Je crois que ça se rapporte à la première grossesse de mon épouse. J'ai été contraint de renoncer à mon voyage en Amérique pour cette raison.
Non.
La voiture qui se trouve devant pourrait faire allusion à l'appréhension que nos deux filles, ainsi que tout autre enfant à venir, répriment le développement de mon progrès.
Étant le père de 6 enfants, je peux en témoigner. Sans mentionner les inévitables difficultés financières.
Non. Heureusement, ma femme jouit d'une grande fortune.
Ah. Ouais. C'est fort heureux. Ce billot.
Oui.
Je crois que vous devriez peut-être concevoir la possibilité qu'il représente le pénis.
Oui. Si tel est le cas, il pourrait bien s'agir d'une certaine contrainte sexuelle, sûrement provoquée par la crainte d'une succession d'interminables grossesses.
Je dois par contre vous dire que si un de mes patients m'avait relaté ce rêve, j'aurais pu penser que le nombre d'éléments contraignants entourant ce malheureux cheval semble indiquer la présence d'une répression persistante causée par un désir sexuel incontrôlé.
Oui. Il y a également ça.
Je me demande si vous êtes conscient du fait que notre conversation a jusqu'à maintenant duré 13 heures.
Je m'en excuse, je n'avais pas réalisé...
Mon cher jeune collègue, nul besoin de vous excuser. C'est notre première réunion. Nous avons énormément de choses à nous dire. Et à moins de faire gravement erreur, il en sera toujours ainsi.
Il est l'heure pour nous de nous quitter. Merci d'avoir été fidèles. À Fidèle au Poste. Vous savez que vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en allant à l'onglet podcast du site de la radio. Demain dans notre émission, nous parlerons de la bande dessinée Vous n'aurez pas les enfants et nous découvrirons des aspects inconnus de la carrière de l'acteur Kirk Douglas. Passez un bon après-midi en notre compagnie et je vous donne rendez-vous demain 14h.